Et je passe au DOB. Je passe au DOB. Et tenez, je vais débarrasser de ça. Je vais rapporter le point. Je rappelle le contexte national et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Je le fais sous l'œil des parlementaires de notre Assemblée. Cette loi de programmation pluriannuelle des finances pose un nouveau cadre pour les finances des collectivités. En effet, il est prévu que ces dernières limitent la progression de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an. Donc, ce n'est pas comme avant, si je puis dire, où il y a eu des coups de rabot sur les dotations de l'État. Là, il est prévu qu'au lieu d'aller à 2,5% par an, ce qui était la tendance de la progression des dépenses des collectivités locales, nous nous limitions tous ensemble à 1,2%, c'est-à-dire moitié moins vite que la tendance naturelle. Ceci amène une économie de 13 milliards d'euros sur 2018-2022 par rapport à l'évolution tendancielle que j'ai indiquée tout à l'heure. Et donc, les efforts devront être faits et ça permettra de diminuer les besoins de financement des collectivités sur cette période d'une façon importante. Alors, pour s'assurer que ça marche, il est prévu dans la loi de programmation un plafond en matière de capacité de désendettement. Nous sommes priés de rester par type de collectivité entre 11 et 13 ans de durée de désendettement compte tenu de notre capacité d'épargne. C'est 11 à 13 ans pour le bloc communal. Actuellement, vous le verrez, on est autour de 6 ans. Elle prévoit également qu'un contrat sera signé entre le préfet, notre préfet, et 319 collectivités, les 319 les plus importantes, dont font partie aussi bien Metz Métropole que la ville de Metz. Donc nous allons être amenés à négocier un contrat avec le préfet qui déclinera les objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de maîtrise de la dette pour rester dans cette limite de 11 à 13 ans de durée de désendettement. Voilà le cadre qui nous est donné. Alors en matière d'analyse financière rétrospective, vous avez eu un très bon document, je voudrais remercier les services qui l'ont fait. Il est extrêmement fouillé, extrêmement détaillé et de grande qualité. Je constate sur la fin de la période que le plan d'adaptation du nouveau contexte financier joue globalement son rôle d'amortisseur de la baisse de la dotation forfaitaire. Ici ont été faits des efforts très importants. Je voudrais également à nouveau saluer les services et les agents qui ont conduit cet effort. Et la marge d'épargne de ce fait, malgré les coupes de l'État dans les dotations, la marge d'épargne reste relativement stabilisée. Les variations annuelles, il y en a des variations annuelles d'une année sur l'autre, s'expliquent essentiellement par des éléments conjoncturels. La conjonction de la baisse de l'épargne brute en 2016 et d'un pic de programmation pluriannuelle a nécessité un recours à l'emprunt en 2016 et un recours plus modéré en 2017, puisqu'en 2017, on va atterrir autour de 17 millions d'euros de recours à l'emprunt. L'encours de la dette étant appelé à se stabiliser d'ici 2020. Concernant les orientations proposées pour le budget primitif 2018, je rappelle que nous sommes dans une assemblée qui fait un budget, qui vote son budget au mois de décembre. Je l'ai voulu dès l'année 2008. À la différence de la plupart des collectivités. C'est un effort que nous faisons qui est compliqué par le fait que pas mal de données ne sont pas encore connues et ne seront connues que vers le mois de février, parfois vers le mois de mars, si bien qu'il y a une part de difficultés supplémentaires à préparer un budget au mois de décembre. Mais nous le faisons de façon à travailler vraiment dès le mois de janvier et non pas en être sur la fameuse formule des 12e qui empêche en réalité les collectivités de travailler sereinement puisqu'elles sont dans un carcan non budgétaire. Et donc, les priorités politiques demeurent inchangées, la culture, l'éducation, la tranquillité publique et l'attractivité des territoires. L'attractivité du territoire et de notre métropole par le même coup. Alors, ce DOB, que vous dit-il ? Il vous dit que pour la 8e année consécutive, il n'est pas envisagé de hausse des taux, des impôts locaux et de la fiscalité directe. Le projet de budget 2018 intégrera des transferts de compétences liés à la métropolisation, transfert qui se traduit par une modification de structure. J'ai été salué tout à l'heure, une grosse partie des 230 agents, c'est ça madame ? 250 agents qui vont être transférés à Metz Métropole. Il s'agit en particulier de tous les agents qui s'occupent de la voirie, de la gestion de la voirie, de l'éclairage, de la gestion de la circulation. C'est un gros contingent. Et pour ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne chose, je rappelle, et que chaque commune, j'ai entendu tout à l'heure Mme Grelet, chaque commune devrait rester comme elle est, avec son autonomie, eh bien, oui, nous sommes en ce moment une agglomération, on peut arrêter une piste cyclable à la limite communale. C'est une grande spécialité de Metz. Et je m'en suis ouvert à mon prédécesseur il y a déjà au moins 20 ans, voire 25 ans, en disant que ce n'est peut-être pas évident de descendre et de sortir d'une piste cyclable parce qu'on change de commune. En ce moment, c'est le cas. Et en changeant de commune, j'entends bien, donc la nécessité d'avoir une politique de transfert de compétences dans des domaines de cette nature est effectivement une bonne chose. Les dépenses et les recettes afférentes à ces compétences transférées disparaissent et l'attribution de compensation est impactée à due concurrence. En réalité, ce n'est pas des cadeaux qu'on fait dans un sens ou dans l'autre, parce que quand on donne du personnel, on nous prend l'argent qui va avec automatiquement. Ça se discute à l'intérieur de la CLET. Globalement, les transferts loi NOTRe et métropolisation représentent une charge nette de 5 764 000 euros en fonctionnement et de 2 091 000 euros en investissement. Quant à la mutualisation, ce qui est une autre forme, la mutualisation, c'est voulu. C'est des services qui sont mutualisés. Nous restons maîtres de donner des instructions, mais ils sont mutualisés. Des directions ressources, elles correspondent à un transfert de 2 500 000 euros. Donc, en chiffres ronds, c'est à peu près 10 millions d'euros de volume financier qui passe à la métropole, soit à travers des transferts de compétences, soit à travers la mutualisation. 2018 correspond également à la dernière année du plan ANCF, avec 4 377 000 euros d'économies prévues, dont 2,4 millions sur la masse salariale. Au total, ça fera 162 postes qui auraient été supprimés dans les services de la ville de Metz au titre de cette ANCF, en essayant de maintenir, voire parfois d'améliorer, les services publics. L'objectif d'épargne brute s'élève à 12 500 000 euros, ce qui permet de financer un niveau soutenu d'investissement, dont soit 37 millions d'euros, en ne mobilisant pour l'année prochaine que moins de 11 millions d'euros d'emprunt. On prévoit 10 870 000 euros d'emprunt. Quant aux perspectives pluriannuelles, elles dépendent étroitement du contrat qui sera conclu avec le préfet et sur laquelle la collectivité n'a pas encore de visibilité. J'ajoute que nous allons discuter dur avec le préfet parce que nous sommes une ville, je le rappelle, qui a 22% de sa population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire nous sommes une ville qui, contrairement à ce que les gens croient, n'est pas riche globalement à travers sa population, mais qui a plutôt au contraire des charges de centralité de toute nature et en plus de ça, une tendance à concentrer les gens en difficulté. Quelquefois, il arrive qu'on doit vendre une maison dans la périphérie de Metz parce qu'il y a un divorce, perte de travail et qu'on nous demande deux HLM. C'est tout à fait caractéristique de la situation de notre ville. Si bien que nous aurons une discussion serrée avec le préfet sur la façon de conduire la suite des opérations. Mais je peux vous dire que, au vu des données qui vous ont été fournies, qui sont extrêmement détaillées, nous avons la possibilité d'envisager sereinement l'atterrissage de ce mandat dans des conditions qui feront que notre ville aura conduit finalement largement à l'éclosion d'une métropole et en même temps aura une situation qui sera saine sur le plan financier compte tenu de la prudence et de la rigueur avec laquelle nous gérons les finances publiques. Alors je veux ouvrir le débat. Énormément de gens se sont inscrits. Tant mieux. Si on tient, c'est 1h18. Si on tient, c'est 1h18. Mais il va falloir que chacun respecte vraiment son horaire. Et donc, voilà, je serai un peu comme tout à l'heure, sans être impérialiste et violent, je serai un peu directif. Permettez-moi, parce que la liste est importante. Et c'est vos demandes. Simplement, je demande aux gens qui parlent dans le même groupe d'anticiper sur la parole des autres. Ou alors, je peux éventuellement faire des divisions. Je sais diviser par 3, diviser par 4, facilement. Ça permettrait peut-être d'avoir des intervenants qui grillent la politesse, au sens propre du terme, à leurs collègues de groupe. Je donne la parole à M. Cazin. M. Cazin, vous avez la parole.
Merci de me donner toujours la parole en premier. C'est gentil.
Oui, c'est un plaisir.
Oui, pour moi aussi. Donc, vous avez voté... Ah, oui, c'est vrai. Mais la fois d'avant, non, moi. Donc, vous avez voté pour un président de la République qui pense que le meilleur des placements n'est sans doute pas le placement immobilier privé. On voit aujourd'hui, quand même, les mesures fiscales qui sont prises. La flat tax, par exemple, ne s'applique pas à l'immobilier. L'immobilier n'est pas sorti de l'ISF. Et vous allez sans doute répondre, en plus, à ce besoin de recettes nouvelles par une augmentation de la taxe foncière. Donc vous allez manquer certainement ces prochaines années d'investisseurs pour acheter les bâtiments et les logements, les appartements que vous avez construits et que vous continuez à construire tout au long de la ville. Donc ma question est simple. Comme vous allez avoir une désaffection quand même des investisseurs privés, allez-vous réduire la voilure et faire moins de béton enfin dans cette ville?
Merci. Madame Thomas, je rappelle que ce n'est pas des questions-réponses, hein, puisque c'est un débat d'orientation budgétaire. Donc, vous donnez votre avis pour que je construise le budget. Donc, j'ai entendu votre question. Madame Thomas.
Normalement, c'est Madame Grollet qui commence en premier. Excusez-nous.
Ah, ben, c'est moi qui donne la parole, madame. Vous êtes inscrite, Madame Thomas, vous avez la parole.
Bon, alors, très bien. Parfait. Alors tout simplement, quand on a à faire des économies, effectivement, on peut avoir des objectifs absolument atteints. C'est un petit peu comme quand on est dans les banques, hein. Il y a des chiffres et des objectifs à faire. La question, c'est que, par exemple, en commission cession du patrimoine, il y a un certain objectif atteint, 10 millions. Est-ce que, pour autant, il faut un petit peu se dépêcher de vendre à tout prix, hein, et d'absolument, je dirais, avoir la pierre, hein, qui, comme ça, peut être une réserve, je dirais, toujours un fonds précieux qui puisse être, au contraire, puisse un peu trop rapidement s'activer pour vendre à tout prix. Alors l'autre question, c'est aussi fonctionnel et utile. Quand, par exemple, on a le projet de l'Agora, qui est tout de même, je dirais, assez plein de fantaisie, avec un jardin en terrasse, un écran, une projection sur l'extérieur, est-ce que tout ceci n'est pas, entre guillemets, un peu gadget par rapport à quelque chose avant tout, qui doit, dans des quartiers, permettre aux uns et aux autres de venir avoir la connaissance? Et j'en profiterai aussi, quand on parlait d'image de la femme tout à l'heure, moi je crois que les grands médias seraient notamment aussi à un petit peu à voir comment l'image de la femme peut être véhiculée de façon dégradante par la publicité, par des images de films, des thrillers qui vous mettent des crimes en série où il n'y a que, comme par hasard, des superbes, comme on dirait, des superbes nanas qui sont assassinées. Est-ce qu'il y a aussi, il n'y aurait pas une petite, quelque chose, un intérêt justement avoir un regard bienveillant par rapport à la culture de l'image et à l'éducation notamment des jeunes. Je ne vous citerai pas une expression célèbre qu'on entend dans les salles de classe, hein. C'est toujours la mère malheureusement qui est toujours fautive, hein. C'est jamais le père. Voilà, donc peut-être quand on parle d'économie, cibler les économies pour que justement ce soit vraiment des économies qui soient utiles. Je vous remercie.
Merci. Madame Grollet.
Alors, c'est aujourd'hui le grand retour de Dr Dominique et Mr Gros, semble-t-il. On entendait encore tout récemment le discours fier d'être un brillant gestionnaire qui n'augmente pas les impôts depuis 8 ans, enfin les taux, petite nuance. Et les médecins découvraient ce matin les lamentations sur les contraintes de l'État qui obligent à augmenter les tarifs municipaux en 2018. Même surprise pour vos conseillers qui, au terme de plus de trois heures de commission des finances jeudi dernier, pour préparer ce débat sur les prétendues orientations du budget 2018, n'ont pas entendu un seul mot sur cette orientation-là. Alors ça, c'est un vilain mensonge par omission. Mais de même que l'intox, les impôts n'augmentent pas, ou pardon, les taux n'augmentent pas, le citoyen sait très bien la réalité sur son avis d'imposition, sur sa facture d'électricité, n'est-ce pas, sur celle de la crèche, de la cantine bientôt, de la piscine, du stationnement, et j'en oublie certainement. J'avais prévu d'axer mon intervention sur l'endettement, qui est la variable cachée pour le citoyen, mais autant dire, je suis estomaquée de découvrir votre projet d'augmentation des tarifs municipaux pour 2018 qui va, une fois de plus, toucher de plein fouet les foyers messins. Sous le prétexte de faire payer l'usage de la ville, vous allez encore punir les familles qui n'ont pas vraiment le choix de mettre leurs enfants à la cantine ou à la crèche. En somme, les citoyens messins sont pris en tenaille entre la ville d'un côté et la métropole de l'autre côté qui pratiquent la même escalade confiscatoire. Hausse d'impôts, de taxes d'ordures ménagères, augmentation continuelle des tickets de bus, etc. Même feu croisé pour ce qui est de la dette. Des chiffres très valorisants en apparence pour Metz, 552 euros de dette par habitant contre le double pour les villes de même taille. Mais pour être honnête, il faudrait ajouter la dette créée au niveau de la métropole, qui partait, je le rappelle, de 4 euros par habitant en 2008. Dette que vous devrez aussi assumer parce qu'elle provient des projets et décisions de Metz, Métis, le Palais des Congrès. Et enfin, il importe de mettre en perspective surtout l'escalade. 552 euros par Messin, mais 98 euros en 2008, 344 en 2016, 424 l'année dernière. On arrive à un total de 71 millions d'euros d'emprunt, c'est indiqué, mais n'oubliez pas d'ajouter 4,5 millions de stocks de dette du budget annexe des eaux. Et l'an prochain, 10 nouveaux millions seront empruntés. Avec les remboursements, cela représente une augmentation nette de 6 millions d'impôts. Alors habituellement, vous concluez ce débat en disant que vous avez entendu beaucoup de critiques, mais pas de solution alternative pour orienter ce budget à venir. Je tiens donc à souligner la cohérence de notre groupe qui fait des choix et qui les assume tout au long de l'année budgétaire. Nous soutenons les actions qui vont dans le bon sens, mais nous repoussons les dépenses hors compétences, excessives dans le contexte actuel ou générant un éparpillement de l'action publique. Ce sont des orientations qui ne sont aucunement explorées par la municipalité. C'est pourquoi je suis persuadée qu'il n'y a pas de fatalité obligeant à continuer d'augmenter la dette, d'augmenter les tarifs municipaux, comme vous avez déjà augmenté les taxes et impôts. Vous dites à juste titre dans cet article de ce matin que le personnel a déjà payé le prix fort avec 162 suppressions de postes. Nous, on en était resté à 135, je ne sais pas... où sont passés les agents supplémentaires, ça n'est tout de même pas neutre. Mais enfin, quelles actions non indispensables avez-vous supprimées en face pour éviter de baisser la qualité du service, comme c'est le cas? Au contraire, vous annoncez comme première priorité intouchable la culture, et on sait combien cela génère de frais de fonctionnement pour les structures créées, de contraintes de mise en place pour l'événementiel qui se multiplie, cela au lieu de conforter l'existant. Éparpiller au lieu de conforter l'existant, c'est finalement un peu la même politique qui est menée en matière d'attractivité commerciale. Et à Metz, on est en train d'asphyxier la poule aux œufs d'or qu'était Metz la commerçante. Évidemment, je salue l'arrivée de nouvelles enseignes, mais il fallait les attirer au centre-ville, qui ne manque pas d'espaces vacants. Et l'inauguration triomphale du centre commercial Obèze me fait craindre des lendemains difficiles quand déjà 30% des enseignes, c'est le chiffre qui nous est donné, sont en doublon ou ont quitté le centre piétonnier pour se rendre de l'autre côté de la gare. Vous choisissez donc de taxer encore et toujours le cochon de payant, d'automobilistes, d'usagers, les petits médecins qui devront rembourser la dette. Vous construisez à tout va sans qu'on sache d'où viendront les nouveaux habitants et pourquoi ils viendraient. Donc je suis préoccupée, nous sommes préoccupés par cette fuite en avant dans un contexte de grande instabilité institutionnelle et financière, ça chacun doit le reconnaître, et nous plaidons pour un retour à la raison et un recentrage sur nos compétences prioritaires. Je vous remercie.
Merci madame. Monsieur Aldrin.
Mes chers collègues, parler d'orientation budgétaire ici au sein de ce conseil municipal de Metz, c'est hélas faire le constat d'une situation financière dégradée et de perspectives difficiles. Alors on va le faire malgré tout, et je voudrais axer mon propos sur trois choses. La contractualisation, la dette et des perspectives d'orientation budgétaire. Je crois que l'élément central, pour commencer, est nouveau, c'est ce phénomène de contractualisation. Moi, monsieur le maire, par principe, je suis philosophiquement attaché à la libre administration des collectivités locales et à leur autonomie financière. Mais je nuancerai mon propos pour le cas particulier de la ville de Metz, car ce dispositif aura un mérite, tout du moins je l'espère, c'est de mettre votre gestion financière à l'épreuve des faits et à l'épreuve des résultats. Puisque il y a d'un côté un discours, celui de votre adjoint aux finances, qui est assez absent, oui, mais qui est régulier dans le fait de dire tout va bien, on gère comme les meilleurs gestionnaires de Lorraine, de France, de l'univers et de je ne sais où. Et puis nous qui cessons de dire qu'il y a des points d'interrogation à mettre. Alors, sur ce principe de contractualisation, moi je vois ça comme un garde-fou à votre gestion pour empêcher Metz de se laisser emporter par notamment le toboggan de la dette. Alors, monsieur le maire, c'est vrai que le chiffre de 1,2 est un chiffre qui peut être débattu, voire même contestable. C'est un chiffre difficile, je le concède parfaitement. Mais il vous obligera à vous positionner soit la hausse d'impôts, soit la baisse des dépenses. Et nous, c'est clairement la baisse des dépenses. Et il vous obligera aussi à faire le bilan de votre soi-disant plan d'économie, dont une partie a déjà été reportée, dont 1 million d'euros avait déjà été amputé en 2016 dès le départ, dont 700 000 euros aujourd'hui, nous dit-on, sont reportés, dont on nous dit 162 postes non supprimés. Ben écoutez, on verra, parce qu'à chaque fois qu'on donnait des objectifs de postes, ils n'étaient pas atteints. Bref, il s'agira de faire enfin des vraies économies, et chacun comprend bien que ajuster des tarifs de terrasse n'est pas à la hauteur du problème structurel, financier, pour notre collectivité, tout du moins lorsqu'on veut la projeter dans un horizon de moyen et long terme. Alors, j'imagine la discussion, enfin, qu'est-ce que pourrait être la discussion entre le maire de Metz et le préfet sur cette contractualisation ? Monsieur le maire, monsieur le préfet. Alors, monsieur le maire, d'ailleurs, vous avez commencé à le dire. Monsieur le préfet, nous avons des spécificités à Metz. Nous avons un taux de pauvreté. Mais monsieur le préfet dira, mais monsieur le maire, la dotation de solidarité urbaine n'a pas baissé pour Metz, et vous prévoyez même de l'augmenter pour 2018, plus 500 000 euros. Je crois qu'il faudra revoir votre copie sur ce sujet, monsieur le maire. Et puis il vous dira, mais Metz, c'est extraordinaire. Il y a une spécificité propre qui est l'UEM. C'est plus de 12 millions d'euros de dividendes que le préfet ne voit pas dans les villes de la strate équivalente dans la grande région. Il dira, mais attendez, s'il y a bien une collectivité qui doit être capable d'amortir le choc des dotations, c'est bien une collectivité qui a cette recette dite exceptionnelle. C'est une chance pour nous. Mais si je me mets à la place de l'interlocuteur en face, lorsqu'il faudra contractualiser. Je dis ça parce que j'ai écouté avec intention le Premier ministre, qui était questionné à, je sais plus si c'est au Sénat ou à l'Assemblée, où il disait 1,2, c'est une moyenne. Hein ? On demandera un petit peu de souplesse. Pour certaines, ça sera un peu moins, et pour d'autres, ça sera un peu plus. Ben, je vous souhaite bien du courage au regard des spécificités dont je viens de rappeler quelques éléments, de demander un peu plus que les 1,2. Et puis, il vous dira aussi, mais monsieur le maire, avec toutes les baisses de dotation qui ont été versées ces dernières années, on pensait que vous allez vraiment faire des réformes structurelles sur les dépenses de fonctionnement, revoir je ne vais pas me répéter parce que ça fait quelques années que je me répète là-dessus, revoir l'organigramme, revoir le fonctionnement des satellites de la ville, c'est là qu'il y a des économies structurelles à terme à faire. Et il vous dira, mais vous, vous avez plutôt fait le choix d'augmenter les recettes, vous avez augmenté la fiscalité, en modifiant les taux d'abattement en 2015, monsieur le maire, plus d'un million d'euros, 1 125 000 euros, c'est pas une petite affaire. Vous avez augmenté la redevance de la DSP des parkings en augmentant les tarifs. Vous avez augmenté le dividende de l'UM de quasiment 4 millions de plus. C'est une bonne chose, mais enfin, c'est toujours l'optimisation des recettes. Les voiries, on ne va pas refaire le débat sur le stationnement. Les tarifs du périscolaire des cantines qui ont déjà été augmentés. Le jour de carence, par exemple, qui sera une recette supplémentaire, bienvenue également. Donc, c'est faux de dire que dans un autre côté, les recettes n'augmentent pas. Et malheureusement, vous faites une fois de plus, a priori, le choix de la facilité en allant sur des recettes supplémentaires. Et là, nous disons non, c'est les vraies réformes de structure de dépenses que nous souhaitons voir dans le budget que vous présenterez le mois prochain. Alors, deuxième aspect, c'est la dette. La dette, avec la fameuse règle d'or que le gouvernement souhaite appliquer. Alors là aussi, c'est très intéressant, parce que le gouvernement dit entre 11 et 13 ans, c'est la durée de désendettement que nous souhaitons fixer. Mais il y a quelque chose qui n'est pas dit dans le document, mais que le gouvernement dit, c'est que pour les collectivités qui atteindront ce stade, ou même pire pour elles qui le dépasseront, elles seront obligées de revenir à un stade de 5 à 6 ans. C'est pas moi qui le dis. Donc ça veut donc dire que dans l'esprit du législateur, la norme, c'est plutôt 5 à 6 ans. Et le document dit, à la fin du mandat, on sera à 8,5. Donc, comprenez bien qu'il y a une tendance qui est dangereuse pour la ville. Et il est temps d'en prendre conscience. D'ailleurs, il y a un chiffre qui devrait vous en faire prendre conscience. 44% des investissements sont financés par l'emprunt. Ça veut dire que quasiment la moitié de nos investissements, nous ne sommes pas capables de les financer par d'autres recettes d'investissement autres que par l'emprunt. Pour une raison très simple. C'est parce que quand on a eu la frénésie de dépenses de fonctionnement, comme c'était le cas au début du mandat 2008, aujourd'hui, on a une capacité d'autofinancement qui se réduit considérablement. Troisième et dernier point que je voudrais aborder, c'est, puisqu'il s'agit de vous faire une suggestion, pour en faire plein sur la sécurité, je vais en faire une, parce que j'espère qu'elle sera retenue. Au fond, le vrai enjeu pour notre collectivité, c'est de sortir de cette spirale du déclin démographique dans lequel nous sommes entrés. Parce que moins d'habitants, c'est moins de rentrées fiscales, etc., etc. Et au fond, j'ai le sentiment que tant qu'on n'aura pas mené une politique combative sur cet aspect, nous répéterons, année après année, j'espère pas trop longtemps, pour faire ce même constat financier difficile. Et voyez-vous, parce qu'on a perdu 1000 habitants en 2016. Et les militaires, c'était il y a 10 ans. Hein. Donc on perd des habitants. Je vais vous dire, pour une simple et bonne raison, peut-être que vous n'en êtes pas convaincu, j'en suis même, je l'espère, mais voyez, la disposition que vous avez prise sur le stationnement, c'est typiquement le genre de mesure qui fait fuir les médecins de la ville. Donc il faut impérativement envoyer des signaux positifs. Et augmenter les tarifs de cantine, etc., augmenter les tarifs de stationnement, c'est tous les contraires des messages pour refaire venir des habitants, car l'objectif, c'est gagner la population. Alors moi et notre groupe, nous souhaitons une proposition directement et rapidement mise en œuvre, c'est une refonte des tarifs des abonnements résidentiels, qui s'apparente, selon nous, à une vraie hausse de la fiscalité indirecte. Puisque certes, vous avez autorisé le deuxième macaron, maintenant, la bonne affaire, pour se stationner là où c'était gratuit, il faut payer pour deux voitures 408 euros en plus par an. Ben ça, voyez, monsieur le maire, c'est, si on continue dans cette logique, la perte d'habitants programmée pour notre ville. Nous, allez sur le site de la ville de Nancy. Quand elle parle de stationnement, elle met ça en avant comme étant la ville la plus attractive du Grand Est. Un élément d'attractivité pour faire venir des habitants. Nous sommes les plus chers. Nancy, c'est 14 euros au mois, nous, c'est 23. Nous sommes à 204 euros, ils sont à 150. Je pense que sur les anciennes zones bleues, qui n'avaient absolument pas besoin de revenir dans ce système-là parce que la zone bleue correspondait parfaitement, ou alors les quartiers résidentiels éloignés du centre-ville où il n'y avait pas cette problématique de rotation que vous avez inventée, je crois qu'on peut aller sur des tarifs. Amiens, c'est 1 euro le premier, Mulhouse, c'est 70 euros, tout du moins un tarif dégressif. Et je terminerai là-dessus, puisque même votre adjoint à la mobilité le concède. Il avait fait dans sa présentation lors de la réunion sur le stationnement une très belle présentation en disant que quand il y a deux macarons, toutes les villes font une dégressivité, sauf nous. Eh bien, je vous demande la dégressivité sur le stationnement résidentiel. Et pour le reste, nous attendrons le budget l'année prochaine.
Merci, Madame Nicolas.
Madame Collin-Osterlet.
Oui, Monsieur le maire, si vous voulez bien, je prendrai 5 minutes, puisque Madame Nicolas ne parle pas. Monsieur le maire, s'il vous plaît, si je pouvais juste ne pas être interrompu et parler le temps...
Vous n'êtes pas interrompu, vous venez de me poser une question, la réponse est non, vous êtes des conseillers municipaux individuels, vous avez 3 minutes.
Peu importe, ce sont les droits de l'opposition, et s'il faut aller plus loin, j'irai plus loin.
Eh bien, vous allez plus loin.
Monsieur le maire, dans ce document, vous parlez du... On parle beaucoup du passé, et on a raison d'en parler, parce qu'en arrivant il y a bientôt 10 ans aux commandes de notre ville, il faut rappeler que vous avez trouvé une situation budgétaire extrêmement saine, avec un taux d'endettement par habitant très faible, une réserve de plus de 60 millions d'euros, des investissements, et pas des moindres, pour des réalisations qui sont devenues des institutions, qui font aujourd'hui rayonner notre ville. Je parlais de l'Arsenal, je parlais des arènes, je parlais de Pompidou, je parlais du parc de la Seille, et bien d'autres encore, et des dépenses de fonctionnement maîtrisées. Alors en 2020, monsieur le maire, quel sera votre bilan ? Un taux d'endettement par habitant qui sera multiplié par 10. Des dépenses de fonctionnement qui auront explosé sous votre première mandature, plus 32 millions. Et aujourd'hui, malgré vos efforts pour faire marche arrière, des dépenses de fonctionnement très difficilement maîtrisables malgré les transferts de compétences et mutualisation avec Metz Métropole. Et pour rappel, parce que vous parlez aujourd'hui d'une masse salariale qui serait moindre, je vous rappelle que cette masse salariale a explosé, là aussi, entre 2008 et 2014, plus 10 millions, passant de 2160 agents en 2008 à 2285 agents en 2013. Des recettes en diminution constante, malgré les augmentations fiscales, 15 millions supplémentaires depuis votre arrivée, avec effectivement une augmentation de la fiscalité en 2015, pas des taux, mais une diminution des abattements, des augmentations déjà réalisées de tarifs municipaux, et que vous envisagez d'augmenter encore, des augmentations déjà réalisées de tarifs périscolaires ou de la cantine, que vous envisagez d'augmenter encore, les augmentations déjà réalisées des recettes de stationnement liées non pas à l'augmentation de la fréquentation, mais bien à celle des prix. Et enfin, une épargne nette insuffisante au regard des engagements pris. Malgré tout cela, malgré effectivement des recettes exceptionnelles provenant notamment de l'UEM. La seule question qui vaille aujourd'hui et que l'on doit se poser, c'est est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui à Metz qu'il y a 10 ans? La réponse, nous l'avons tous. Non, on ne vit pas mieux. Non, on ne vit pas mieux. La ville se paupérise. La ville se paupérise avec un taux de pauvreté, ça a été rappelé, de la population messine de 21,7%, la moyenne étant de 14,5% en Moselle. Un vieillissement de la population important ces 10 dernières années, une population qui continue à décroître malgré l'offre surabondante de logements neufs censés attirer de nouveaux habitants, les jeunes ménages préférant même la périphérie de l'agglomération messine et allant s'installer en seconde couronne. Alors dire aujourd'hui que rien n'a été fait, ce serait mentir. De bonnes décisions ont été prises, notamment en matière de travaux dans les établissements scolaires, de construction de cantines, en matière également d'organisation de certains événements, comme par exemple le magnifique marché de Noël qui, de chaque année, est de plus en plus beau. Mais comme par les années passées, vos orientations budgétaires, couchées là sur 4 pages, traduisent vos priorités, mais ne répondent pas aux attentes des Messins. Pas un mot dans votre document concernant les personnes âgées, avec une véritable crainte concernant le devenir des foyers logements. Pas un mot, plus largement, sur la politique sociale. Vous parlez sécurité lors des manifestations, mais la sécurité, monsieur le maire, elle se vit au jour le jour. Pas seulement lors des manifestations, et les médiateurs de nuit que vous aviez annoncés à grand renfort de communication ont disparu des écrans radars, pour autant qu'ils soient un jour apparus. Alors je demande effectivement qu'un effort particulier soit fait pour que le rétablissement de la police municipale de nuit soit effectif et qu'il y ait un véritable renforcement, monsieur le maire, du dispositif de vidéosurveillance, merci, notamment madame. En centre-ville. Monsieur le maire, j'interviendrai 3 fois pendant le conseil, je vous demande de me laisser parler.
Merci madame. Vous êtes conseillère municipale
ce
isolée.
Ce centre-ville,
Vous êtes traité comme tout le monde.
Non, monsieur le maire, ce centre-ville dont l'attractivité pose question.
Je passe maintenant la parole à Mme Caroline Oudouy.
Monsieur le maire, je quitte la salle, c'est insupportable.
Eh bien, écoutez, vous partez.
Monsieur le maire, j'irai jusqu'au tribunal administratif. Vous devez laisser parler les conseillers isolés.
Allez-y, madame.
Je suis désolée, c'est quand même incroyable. On ne va pas s'énerver comme ça à chaque conseil.
Allez-y, madame. Madame Caroline Oudouy, vous avez la parole.
Pardon ?
Madame Caroline Oudouy, vous avez la parole. Et j'indique aux 5 personnes qui sont là qu'il y en a 4 qui sont inscrites pour 20 minutes. Et donc, essayez de vous répartir les 20 minutes harmonieusement, de façon à ce qu'il n'y ait pas
des personnes
qui sont... Il y avait
6 minutes pour Mme Nicolas et moi. Qu'est-ce que ça pouvait vous faire de me laisser parler, monsieur le maire ? Qu'est-ce que ça pouvait vous faire ?
Vous ne constituez pas un groupe à 2 personnes. Vous êtes 2 personnes isolées.
D'accord.
Alors, Madame Oudouy...
Et ça ira au tribunal administratif. Je suis désolée.
Allez-y, madame.
Monsieur le maire... Vous nous soumettez votre rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2018. Ce document appelle de notre part plusieurs remarques. D'abord, sur le contexte économique français. Les efforts importants de réduction des dépenses publiques demandées aux Français par le gouvernement commencent à payer. Le déficit public est passé entre 2012 et 2017 de 4,8% à 2,9% du PIB, avec une projection de 2,6% en 2018. La croissance se redresse, mais elle reste fragile. 1,8% en 2017, le chômage se réduit aussi légèrement. Il reste cependant un endettement très significatif, dont ce rapport ne fait pas état, endettement qui se rapproche des 100% du PIB dès le deuxième trimestre de l'année 2017, loin de l'objectif que s'était fixé le précédent gouvernement, qui s'était engagé à le ramener à 96% du PIB. Voilà des réalités budgétaires que les politiques doivent prendre en compte. En ce qui concerne le budget de notre commune, on remarque d'abord qu'en matière de recettes, aucune augmentation des taux de la fiscalité directe locale n'est envisagée. Vous n'augmentez pas les impôts, certes, il faut donc trouver des recettes ailleurs. La dette a été ainsi augmentée considérablement, son encours passant de 7 millions en 2010 à 70 millions en 2017, soit un encours multiplié par 10 en 7 ans. Or, plus que sur son niveau, c'est sur son évolution que notre groupe vous avait déjà plusieurs fois interpellé. La conclusion de ce rapport mentionne d'ailleurs bien qu'à l'horizon 2020-2021, à épargne constante, la capacité de désendettement tend à se rapprocher de la limite des 11 années de désendettement prévues par la loi de finances 2018 pour les grandes villes. Il faudra donc effectivement réfléchir aux bases sur lesquelles vous contractualiserez alors avec le préfet pour respecter ce renforcement de la règle d'or et à la nécessité de stabiliser l'encours de la dette, nécessité que notre groupe avait déjà évoquée. Vous annoncez également qu'un plan d'économie va être réalisé. Alors, quels seront les services à la population qui seront touchés ? Quelles lignes budgétaires vont être diminuées ? Nous attendons donc des précisions sur ces économies que vous envisagez de faire lors de la présentation du budget le mois prochain. Je vous remercie.
Merci, madame. Monsieur Thiel.
Oui, merci, monsieur le maire. Je vais essayer de contracter, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites, partageant notamment l'avis de Jérémy Aldrin et partageant aussi un certain nombre de constats de madame Collin-Osterlé. Ce que je voudrais dire, c'est le contexte général et appeler un petit peu votre attention, mais elle est appelée, j'en suis sûr, sur ce contexte. D'abord, quelques chiffres, monsieur le maire. Moi, je dois dire que je félicite les services, évidemment, pour le rapport qui a été fait. Mais j'aimerais aussi dire que l'article du Républicain Lorrain aujourd'hui me semble une très bonne synthèse, je voudrais le souligner, et met bien les choix en perspective. Alors, il y a un premier élément, c'est les incertitudes, j'y reviens, sur les finances publiques. Vous dites, nous n'avons pas les renseignements aussi vite que les autres années, vous avez sans doute raison. Mettez-vous à la place des services des finances publiques locaux sur le produit fiscal attendu, dans une perspective où d'habitude il n'y avait pas de réforme de la taxe d'habitation. Aujourd'hui, il y a une réponse. Il faut donc anticiper par les éléments qui vont être donnés le fait qu'un tiers de ceux qui vont bénéficier de cette exonération seront évidemment à tenir compte. Je rappelle quand même que pour les 20% restants, plus les deux tiers qui seront progressivement atteints, nous nous trouvons dans une situation où si vous étiez tenté par une augmentation des taux d'imposition, ceux-ci se verraient naturellement augmenter leur impôt. Et j'insiste notamment sur les 20% qui restent. Pourquoi j'insiste sur les 20% qui restent ? Parce que paieront de la taxe d'habitation ceux qui aujourd'hui ont un revenu pour un célibataire supérieur à 30 000 euros par an. Oui. Ce qui place, si j'ose dire, la personne contribuable dans un revenu relativement moyen, on va le dire. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Deuxième élément que je voudrais souligner, toujours dans le contexte fiscal, c'est que lorsque j'ai quitté la direction des services fiscaux de la Moselle il y a à peu près une dizaine d'années, nous étions dans le département de la Moselle assez révélateurs de la moyenne nationale, à savoir qu'il y avait 50% des ménages qui payaient l'impôt et par déduction 50% qui ne le payaient pas. Revenant un peu plus attentif à ce département sur le plan fiscal, nous sommes aujourd'hui, je parle du département, à 63% de ménages qui ne paient pas l'impôt. Donc, par voie de conséquence, un peu plus de 30%, 37% sont aujourd'hui les ménages imposables. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes dans les 37% sans doute qui payent l'impôt sur le revenu. Or, on sait que les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu peuvent effectivement faire une demande gracieuse pour leur taxe d'habitation. Autrement dit, aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres pour la ville de Metz proprement dite, mais compte tenu du contexte habituel qui était déjà vrai il y a une dizaine d'années, je pense qu'on est au-delà des 63% de non-imposables, ce qui représente quand même largement beaucoup de ménages qui ne payent pas l'impôt. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que dans le contexte qui est indiqué ici, on dit vous êtes plutôt pas favorable à l'augmentation des taux. Sur l'article du Républicain Lorrain, on dit ah ben peut-être la taxe foncière, enfin, etc. Je vous mets en garde contre cela. Non, mais j'exprime un vœu dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Si ça correspond à ce que vous souhaitez, monsieur le maire, ben, nos volontés se rencontrent. Je vous mets en garde contre cela. Pourquoi ? Parce que la ville de Metz attire, comme beaucoup de grandes villes, mais peut-être aussi par une certaine politique que vous avez menée, une pauvreté plus grande que dans le reste du département. Mais dans le même temps, on a vu des ménages qui payaient, eux, l'impôt et qui sont partis aujourd'hui, un peu plus loin, pas beaucoup, résidents fiscaux luxembourgeois. Autrement dit, la classe moyenne, aujourd'hui, messine, est directement impactée par toute augmentation d'impôt fiscal. Or, on a besoin de pouvoir d'achat. Quand on ouvre Muse, qui est très bien, quand on veut être toujours Metz la commerçante, il faut veiller à ce que nous ayons un plus grand équilibre, je le dis comme je le pense, sur le plan sociologique entre les ménages à faible revenu et les ménages à haut revenu. Sinon, on se trouvera déclassé. Pensez que le Luxembourg aujourd'hui est en train de construire un centre commercial trois fois plus grand que celui de Muse. Imaginez, parce que moi ça me semblait déjà très grand, mais trois fois plus grand. Donc il faut faire attention à tout cela. Ça, c'était le premier point que je voulais, sur lequel je voulais intervenir en ce qui concerne les recettes. On est quand même dans un moment un peu de fragilité qui dit attention, pas d'augmentation de la pression fiscale. Deuxième élément, ce sont les dépenses. Je souscris, pour ne pas y revenir, tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure par Jérémy Aldrin. Oui, il faut baisser les dépenses. Mais là, je voudrais un petit peu creuser. Méfions-nous de ce qu'on appellerait la politique du rabot. En effet, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. On sait bien qu'une grande part du budget, c'est l'emploi. Donc oui, monsieur le maire, nous réclamons une diminution des effectifs de la fonction publique territoriale. Mais attention, le coup de rabot, c'est considérer qu'on fait un peu tout pareil pour tout le monde. Et ça, c'est très dangereux. Il faut voir les choses au cas par cas, parce que nous avons aussi un cœur de métier, un cœur de service public que j'ai, sans doute comme beaucoup d'élus autour de cette table, je ne prétends pas être le seul, à voir aux tripes. Parce que notre engagement politique, c'est d'abord un engagement de service public. Et faisons attention de maintenir les effectifs là où il y a l'emploi nécessaire au service public et essayons de regarder d'un peu plus près là où on peut faire d'autres économies. Enfin, monsieur le maire, je terminerai par là, puisqu'il faut émettre des vœux. Vous savez combien je suis attaché à quelque chose qui est palpable par tout le monde, c'est l'esthétique de la ville. Et quand je voudrais vous dire que j'aimerais bien une réorientation de certains budgets, Quand je vois qu'on a fait d'énormes travaux de voirie, dont certains me semblent quand même assez bizarres, vous savez, la grande bosse jaune sur l'avenue Foch, moi je ne vois pas à quoi ça sert. Bon, on a revu un certain nombre de choses que je trouve parfaitement pas très utiles, on va dire, alors que l'enlumination de la ville de Metz, vous savez combien j'y suis attaché, aurait sans doute coûté moins cher que ce qu'on a fait là. Voilà, donc un peu de part de rêve, mais je voudrais m'arrêter là pour focaliser sur mes deux interventions. Mais il y a des économies aussi à faire en recherchant des dépenses utiles par rapport à d'autres. Et enfin, permettez-moi de terminer là-dessus. On sait par exemple que la voirie va passer à Metz Métropole. J'aimerais bien, parce que vous en garderez, monsieur le maire, la compétence partagée, en tous les cas sur les désirs, et qu'on ne retrouve pas, comme sur les poubelles, ou sur d'autres sujets, une balle de ping-pong entre vous et le président de Metz Métropole. Vous avez votre mot à dire sur ces sujets.
Merci. Monsieur Henling.
Oui, monsieur le maire, très rapidement, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Tout à l'heure, Patrick Thiel citait André Malraux. Je crois qu'on juge aussi du degré de civilisation à l'attention qu'on apporte aux plus démunis. Et dans les orientations de ce budget qui sont données, effectivement, il n'y a encore une fois rien pour le social, puisque le social n'est pas une priorité. Le CCAS gardera toujours une subvention aussi basse qu'elle n'a jamais été. Et deuxièmement, sur les quartiers politiques de la ville qui sont fortement impactés aujourd'hui, qui sont fortement impactés par le gouvernement, c'est-à-dire en supprimant les emplois aidés, en supprimant les crédits politiques de la ville et en donnant un coup de massue au logement social, là aussi, il n'y a rien de prévu. J'aurais souhaité, notamment pour les écoles de Borny, qu'on fasse un vrai effort. J'ai noté qu'on mettait 5 millions pour la réhabilitation de l'école Sainte-Thérèse. Je note qu'on reporte encore une fois la réhabilitation des écoles de Borny. Je ne voudrais pas en dire plus parce qu'on a utilisé beaucoup de temps de parole et qu'Emmanuel Lebeau a encore beaucoup de choses à vous dire.
Merci. Merci pour lui. Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, très rapidement sur l'analyse financière que vous avez faite sur le passé. Vous êtes un peu le magicien d'Oz. C'est-à-dire que vous arrivez à faire dire le contraire de ce que dit le rapport. Vous avez fait un tour de force extraordinaire puisque vous dites que l'épargne nette a été stabilisé, et si on lit le rapport, je ne sais pas si on pourrait mettre le graphique de l'épargne nette, on voit que ça a diminué de 42%, soit 6 millions d'euros en moins. Je ne parle plus de la dette, parce que tout le monde sait que la dette a été multipliée par 7 en 5 ans, et que où est le problème de la dette? C'est que la dette d'aujourd'hui sera toujours la hausse d'impôts de demain. Il n'y a qu'à voir les propos mensongers que vous avez tenus à Metz Métropole, en disant que jamais les habitants paieront le métis, ce qui est archi-faux, puisque suite à la dette liée au métis, Metz Métropole a dû augmenter de 16 millions d'euros la fiscalité. Donc, soyons très clairs, la dette qu'on construit aujourd'hui, inévitablement, sera liée tôt ou tard à une hausse de la fiscalité. Et ne pas le dire est un mensonge. Voilà. L'autre élément, c'est sur les tendances. Vous dites, il y a une obligation de faire des économies sur 5 ans. Et où elles se font massivement? Sur l'investissement. Parce que là, vous avez une capacité à passer les choses cruelles pour vous avec une rapidité extraordinaire et de les balayer d'un revers de la main. L'investissement puisque on est dans une tendance en fin de régime, en 2019-2020, à être entre 20 et 25 millions. C'est-à-dire que par rapport à 2010, on divise l'investissement par 4. Et je me rappelle de vous avoir entendu dire autant de mal que vous vouliez sur votre ancien prédécesseur, sur des budgets à 80 millions qui étaient réalisés à hauteur de 20 et 25 millions, et que dire que vous étiez obligé d'investir massivement dans la ville parce que les lampadaires allaient s'effondrer sur les usagers. Donc je me dis que si on met 20 à 25 millions d'investissements sur la ville, on va avoir un sérieux problème, parce que je me rappelle votre conseiller délégué aux finances qui s'appelait Jean-Michel Touze à l'époque, qui disait de manière structurelle, on ne peut pas diminuer entre 35 millions d'euros d'investissement pour la ville. Alors, monsieur le maire, comme c'est la période de Noël et que le débat d'orientation budgétaire, c'est aussi la période de faire des propositions, donc j'ai ma petite liste de propositions. Alors, monsieur Dominique Gros, si vous étiez le père de Noël, voilà ce que je vous demande. La création d'un parking à la gare, parce que tous les usagers du TGV ont un problème évident. Ils ne peuvent plus prendre le TGV, à part ceux qui prennent le 6h55. Sinon, à partir de 7h25, il n'y a plus de place de stationnement. Et aujourd'hui, on a créé une gare TGV où, pour vous rendre, vous allez à toute faible vitesse. Donc c'est un problème réel et qu'il faut agir vite. Et là, je vous donne une idée, monsieur le maire, parce que j'ai la proposition et j'ai la solution. Je propose à ce que tous les membres du bureau de Metz Métropole, le 11 décembre prochain, votent contre Centralia, votent contre Centralia, et que l'espace qui est à côté de l'hôtel Ibis sert à la construction d'un parking en technostructure et qu'on pourrait le mettre d'habillé de verre ou un truc sympa, et que là, on répondrait à la demande des médecins, qui n'est absolument pas d'avoir un centre, un siège de Metz Métropole, mais on répondrait à la demande, on répondrait à l'attractivité, parce que je peux vous dire que régulièrement, 2 à 3 fois par jour, j'ai mes homologues luxembourgeois qui viennent à Metz pour prendre le train parce qu'il y a plus de desserts, et que je me fais régulièrement engueuler, je dis, excusez-moi, je m'appelle Emmanuel Lebeau et pas Dominique Gros, je leur transmets vos coordonnées, voilà, parce qu'à un moment donné, il faut assumer ces bêtises. Mais aujourd'hui, en termes d'attractivité, la gare est un réel problème. Deuxième proposition, parce qu'on est là pour faire des propositions, c'est que vous agissiez réellement sur les infrastructures et sur le débat de la 31 bis. Parce qu'on voit que Nancy prend le débat en main, mais nobody pour Metz, ce n'est pas un sujet. Alors là, le maire de Metz, il est absent complet du débat de la 31. Alors, on sait qu'une métropole sans infrastructure, ça ne peut pas se développer. Alors, ça, c'est mon deuxième cadeau pour Noël. Mon troisième cadeau pour Noël, c'est que vous puissiez aussi vous préoccuper de l'aéroport, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'avions qui décollent, parce que si vous voulez aller à Nice, c'est plus possible. Donc, ça serait un peu... et que vous avez une volonté de porter une ville dans une métropole et dans cet élément-là. Ensuite, au niveau du quotidien, jamais la ville n'a été aussi sale. Et je pense que sur les 162 agents, il y a une belle partie de ces agents qui doivent faire partie des espaces verts et de la propreté. Donc, ma demande... c'est que cette ville redevienne aussi propre qu'elle était en 2008. Donc il y a du boulot. Ensuite, dans ma liste de cadeaux, je voudrais enfin vous donner une piste réelle d'économie. C'est-à-dire que ça fait maintenant, depuis 2010, qu'on parle de mutualisation. Mutualisation des services informatiques. Mutualisation des ressources et de la finance. Et normalement, on devrait arriver à des économies. Alors, l'informatique, ça aboutit à quoi? À 10 à 15% de coûts supplémentaires. Et aujourd'hui, en commission des finances, on demande, mais qu'est-ce que ça va donner la mutualisation au niveau des services et des finances? On me dit, oh là là, mon bon monsieur Lebeau, parlez pas ça pour 2018, on en parlera en 2020 peut-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des choses qui n'aboutissent à aucune économie. C'est-à-dire que on fait une nouvelle strate, la métropole, qui devrait aboutir à mieux gérer et à moins dépenser. Mais là, que nenni. Parce que regardez la réflexion qu'on fait pour Centralia. C'est-à-dire qu'on part du budget existant des dépenses, 1 150 000. Et qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on a 1 150 000, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester picobello dans cette enveloppe. On ne pourrait pas se dire, ah ben ça c'est source d'économie, on pourrait gagner 300 ou 400 000 euros. En rachetant le bâtiment existant. Mais non, on est guidé par la dépense publique. Nous sommes des drogués de la dépense publique et nous ne savons pas faire moins. Alors, monsieur le maire, je vous demande une révolution copernicienne pour vous. C'est-à-dire que vous commenciez à vous dire que la dépense n'est pas une fin. Qu'il est possible d'améliorer l'épargne nette, pas uniquement en agissant sur les recettes. Parce que depuis que vous êtes là, vous avez quoi? Agi sur les recettes, bouffé la cagnotte et jamais agi sur les dépenses. Vous avez été dans la facilité la plus complète. Et cette facilité la plus complète, on aurait pu saluer si la population avait augmenté. La population n'a pas augmenté. Si la, pro- la, la pauvreté avait reculé. Je rappelle qu'il y avait un rapport qu'avait fait le docteur Califé sur l'état de santé et en 2008, et on donnait au niveau de la pauvreté, il y avait une personne sur six qui était en dessous du seuil de la pauvreté à cette époque. Maintenant, nous en sommes à 22%. Et je prends le troisième élément, le vieillissement de la population. Sur ces trois critères clés, la ville est en déclin. Vous êtes le maire du déclin et cette orientation budgétaire va droit dans ce sens. Alors, je vous promets une seule chose, monsieur le maire, écoutez-moi, suivez mes conseils et la ville s'en portera mieux. Je vous remercie.
Merci. Madame Boninet, partagez 6 minutes avec monsieur Darbois. Allez-y.
Oui, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le maire, chers collègues. Alors, je vais aborder un tout autre sujet. C'est mon rôle de l'aborder. Alors, les articles ont été publiés au mois d'octobre. Je n'en ai pas eu connaissance tout de suite. Je voudrais aborder le sujet de la disparition des insectes, puisque nous avons perdu 80% de nos insectes en à peine 30 ans, et que c'est une question très grave. Donc, je ne vais pas être très longue. Je pense que nous devons réagir par rapport à ce constat alarmant, puisque 80% des fruits et légumes que nous consommons, et des herbes aussi, des herbes potagères, sont pollinisés par les insectes. Cela veut dire qu'il nous reste 20% de nos insectes, et que si on suit une courbe linéaire de cette disparition, dans 7 ans, on n'aurait plus d'insectes volants du tout. Je rappelle qu'Einstein chiffrait à 4 ans la survie de l'humanité si nous perdons tous nos insectes pollinisateurs. Voilà, c'est une question grave, et certaines villes ont commencé à prendre la mesure du problème. Je vais vous citer juste quelques exemples, parce que je sais qu'en général, ça n'est pas du tout pris au sérieux, mais je pense que nous pouvons le prendre au sérieux à Metz, comme d'autres villes l'ont fait. Voilà. Alors, il y a eu un programme bois mort et habitat terricole à Lille pour constituer une trame verte pour les abeilles sauvages. Et il y a eu une végétalisation des trottoirs par les habitants à Caen, avec un guichet unique qui a été ouvert pour aider les habitants à végétaliser les trottoirs. Il y a à Strasbourg une déminéralisation des trottoirs où on retire le bitume. Et il y a à Dijon la création d'une bourdonnerie. Alors évidemment, quand on construit, souvent on ne se rend absolument pas compte des dégâts que l'on peut faire. Les façades lisses sont catastrophiques. Aussi bien, par exemple, on a perdu plus de 30% de nos hirondelles. Les façades lisses sont une catastrophe pour la biodiversité. Donc, cette bourdonnerie, c'est tout simplement 61 casiers où on va accueillir des pollinisateurs. Au lieu d'une façade lisse, on a 61 casiers où on va accueillir tout ce qu'il faut pour que les abeilles, les papillons, les sirfs puissent se reproduire et puissent polliniser nos fruits et nos légumes. Donc voilà, je voudrais qu'on prenne cela très au sérieux. Je sais bien que ça fait rire beaucoup de gens en général quand on aborde ces choses-là. On se moque des écologistes qui défendent les petites bêtes. Voilà, je suis écologiste, je suis désolée, j'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles à vous annoncer, mais je souhaite qu'on prenne cela très au sérieux. Je vous remercie.
Monsieur le maire, chers collègues, ce DOB est cohérent avec les règles d'organisation comptable, c'est un fait. Très bien écrit en plus. Pourtant, je pense à certains économistes, lesquels prédisent une récession économique mondiale parce que, globalement, l'humanité n'aura pas su anticiper suffisamment tôt le changement climatique. Certes, le regard sur le dérèglement climatique, à part quelques exceptions, change. Le regard change au niveau planétaire, européen, il change aussi au niveau local et notamment depuis la COP21. La plupart des élus ont compris l'importance des choix politiques faits au niveau des collectivités locales en matière de climat. D'ailleurs, c'est un discours tenu aujourd'hui au plus haut niveau de l'État, si tant est que l'État veuille bien nous y aider efficacement et autrement que par des paroles, mais je reste croyant, chers collègues parlementaires. Le regard change. Les discours des acteurs politiques ici en France semblent vouloir dire que c'est urgent, qu'il faut modifier nos pratiques, qu'il faut consommer autrement, etc. Le mois dernier, j'ai présenté ici le bilan de notre deuxième agenda 21. Plutôt positif, même si effectivement je ne suis jamais content. Mais dire ici qu'on fait le boulot en termes d'émissions de gaz à effet de serre, éviter. Comme vous le savez, nous en sommes à l'écriture de notre troisième agenda 21. Mardi dernier, nous avons clos le travail en commun, la recherche de solutions locales avec les comités de quartier, avec les associations, avec nos partenaires, avec Metz Métropole. Bientôt, monsieur le maire, la mission développement durable et solidaire et moi-même partagerons avec l'exécutif les propositions recueillies, parce que si nous voulons réussir le prochain agenda 21, si nous sommes résolus à faire notre part de travail, si nous voulons réussir ici à Metz à atténuer et à nous adapter au changement climatique, il faut que l'on s'y mette toutes et tous, chacun dans ses responsabilités. Ça s'appelle la transversalité. Il faudra arbitrer, c'est le travail de l'exécutif, mais vous dire déjà que la méthode d'écriture participative démocratique de notre troisième agenda 21 est un succès et qu'il faudra certainement poursuivre. Aussi, permettez-moi déjà une proposition concrète et faisable en 2019. Si nous sommes d'accord pour affirmer que nous sommes dans l'urgence climatique, si nous sommes d'accord pour dire que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique sont des fils conducteurs de nos projets municipaux, si nous sommes toutes et tous d'accord pour affirmer qu'il faut penser global et agir local, si nous pensons qu'il est temps de mettre des solutions en œuvre, alors vous accepterez, monsieur le maire, que dans la même importance que le débat d'orientation budgétaire, nous ayons ici, en conseil municipal, un débat d'orientation climatique, je dis bien climatique, pour notre territoire, et que la fusion du débat d'orientation budgétaire et du débat d'orientation climatique participe vraiment à la construction du budget principal de la ville de Metz. L'économie et l'écologie réunies. Une méthode efficace, nouvelle, une méthode reproductible, permettant vraiment d'atténuer et de nous adapter au changement climatique. Méthode que je crois efficace pour répondre à l'urgence climatique. Méthode qui donne à chacun d'entre nous la responsabilité de prendre sa part d'écologie et d'économie dans sa charge, transversalité encore. Il ne s'agit pas de casser la logique budgétaire, mais d'enrichir, de moderniser, de dépoussiérer la logique économique pour l'unir aux logiques environnementales, garantes de notre santé, de notre vie. Je vous propose de mettre cela en œuvre en 2019. Et si ça marche ici, ça marchera ailleurs. Je vous remercie.
Merci, monsieur Darbois. Alors, monsieur Cambianica, pour 3 minutes.
Oui, monsieur le maire, avant que de parler du DOB, je voudrais faire part d'une expérience en tant qu'observateur lors de la dernière commission des finances. J'ai été proprement choqué que certains élus d'opposition ne cessent de porter systématiquement la suspicion et l'invective sur les personnels municipaux. C'est inqualifiable car ils ne peuvent se défendre. Débat d'idées, oui. Avec les élus, oui. Dénigrement, non. Car il ne produit en définitive rien de bon pour notre collectivité, à part la satisfaction éphémère et illusoire des égaux. Ne pas faire cet effort de rigueur, c'est valider que les raccourcis du café du commerce ont la même valeur que l'expertise de nos agents et de nos élus. Alors que certaines des questions posées étaient pertinentes, la forme a annulé, voire disqualifié le fond. Maintenant, pour en revenir au DOB, l'investissement de la ville a été positif pour l'activité et l'attractivité. Il faut se garder, bien sûr, de confondre lecture comptable et lecture économique. L'extinction de la dette est une dangereuse utopie. Sa maîtrise, une nécessité à laquelle nous répondons. Une dette bien gérée, c'est de l'attractivité et de l'emploi. Le DOB doit continuer à appuyer, contribuer ou compléter ce qui sera de maîtrise métropolitaine. Le passage en métropole va avoir un impact neutre dans un premier temps, pour autant que la gouvernance instaurée permette de préserver la dynamique de la ville. La masse salariale est un élément important du DOB, mais cela ne doit pas nous masquer nos véritables enjeux. Nous avons fait le pari de la métropole. Il doit y avoir un sens à court terme en gain de synergie. L'optimisation de l'efficacité opérationnelle des services est engagée et elle doit pouvoir se poursuivre sans tout faire porter sur l'optimisation numérique ou numéraire des agents, mais doit porter sur la maîtrise et la créativité des processus cœur. Un bon exemple en a été celui des services officiels au public. Le développement durable doit, au-delà des effets d'annonce, être pris en compte de façon plus générale et plus forte. Isolation des bâtiments, transport collectif ou actif en lien et cohérence avec Metz Métropole, renaturation, et le PLUI doit densifier pour préserver ou offrir de nouvelles zones vertes. La mixité fonctionnelle et sociale doit être construite ou reconstruite partout où c'est possible. Pour ce qui concerne les ressources apportées par le stationnement payant, dont beaucoup s'expriment sans vraiment connaître le fond du problème, les polémiques systématiques n'ont eu comme résultat que de faire baisser le taux de respect, alors que l'objectif en est une meilleure maîtrise des flux et de l'occupation du domaine public.
Merci, vous voulez conclure, s'il vous plaît.
Je vais conclure. Investir près de 3 millions d'euros, dont 150 000 par an pour le seul stationnement, c'est soutenir le commerce de l'hypercentre, c'est salutaire. Permettre aux résidents... Je n'ai pas cette impolitesse, je vous en prie. Permettre aux résidents de stationner au plus près de leur logement. Lorsque ceux-ci ne disposent pas de locaux privés, c'est notre priorité. Trouver des solutions avec Metz Métropole pour tous ceux qui viennent travailler à Metz, c'est notre chantier en cours.
Merci, merci.
Encourager les pendulaires.
Monsieur Combianica, il faut demander le temps, vous pouvez le faire.
Oui.
Mais il faut respecter le temps que vous avez demandé. Allez, non, il n'y a pas de poids de mesure. Il n'y a pas de poids de mesure. Alors, monsieur Lyogé, s'il vous plaît.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, les temps sont difficiles. Le gouvernement a complètement conscience, et les gouvernements précédents aussi, je pense, des efforts qu'il demande depuis des années aux collectivités. Vous avez très bien souligné tout à l'heure, et le document, je voulais aussi remercier les services et d'une clarté absolue, sur effectivement les efforts qui ont été faits par la mairie de Metz et qui vont continuer dans justement et qui sont proposés dans ce débat d'orientation budgétaire. Le gouvernement, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, propose une visibilité de programmation sur 5 ans. En même temps, et vous l'avez aussi très bien rappelé, il propose une contractualisation. Et contrairement à certains qui se sont exprimés, je n'ai pas peur de la contractualisation et je n'ai pas peur de votre discussion que vous allez avoir avec Metz Métropole et avec, parce qu'il faudra le faire aussi au sein de Metz Métropole, je crois qu'aujourd'hui tout le monde le comprend bien, et avec les services de l'État. Vous l'aviez bien rappelé, cette dette maîtrisée, alors c'est 500 euros par rapport à, ça fait la moitié de la moyenne nationale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de villes qui sont bien au-dessus de cette moyenne, c'est-à-dire 1500 euros par habitant, donc je voudrais le rappeler tout à l'heure. En même temps, le budget des collectivités locales est un budget globalisé du point de vue de l'Europe avec l'État et la sécurité sociale. Et nous venons de voter d'ailleurs le PLFSS avec un certain nombre de propositions, de réformes qui avaient été effectivement portées par le candidat Macron. Ce DEB s'appuie, et c'est ma réponse, sur une expérience de 10 ans. Nous avons su faire à la fois des économies et investir. Je voudrais rappeler ça, justement. Investir de manière extraordinaire. Je voudrais souligner les effets de levier des investissements. Tout à l'heure, on a dit la dépense, comme on disait la cagnotte. Mais la dépense, je dirais, c'est la santé. C'est la santé, évidemment, c'est l'effet de levier qui nous permet d'investir, par exemple, sur la ZAC de l'amphithéâtre, pour que, avec un investissement minime, 330 millions d'euros d'investissement privé soient faits, 800 emplois soient créés. Eh bien, on a la démonstration, je crois, de ce que nous avons été capables de faire effectivement depuis 10 ans sur la ZAC de l'amphithéâtre, et je ne parle pas de ce que nous allons faire justement grâce à ce futur budget sur le centre des congrès, cher Thierry Jean, sur l'hôtel Stark, vous avez bien voulu rappeler, et ça aussi c'est un projet que j'ai porté à un moment donné avec difficulté parce que c'était un objet un petit peu atypique. Tout ça participe du rayonnement de cette ville, et je voudrais vous dire, Ayez confiance dans la ville de Metz. Toutes les interventions que j'ai entendues jusqu'à maintenant sont des interventions négatives. On a l'habitude. Ça ne va pas, vous êtes endetté, vous dépensez trop, etc., etc., etc. Non, nous sommes à la fois sur une dépense, sur un investissement vertueux, puisqu'il provoque des investissements privés fois 10 quelquefois, et en même temps, progressivement, nous attirons de la population. Et c'est vrai, M. Aldrin, ce n'est pas 10 ans. Je veux dire, l'annonce de la fermeture, c'est 2008. On était là en juillet 2008. Entre l'annonce de la fermeture, effectivement, il y a 9 ans, et les effets de cette fermeture, c'est-à-dire la perte des 5000 militaires, excusez-moi, ils n'ont pas disparu en 24 heures. Ils ont mis quelques années à s'en aller. Et je trouve que, d'une certaine manière, nous nous en sommes plutôt bien tirés par rapport à cette disparition militaire et tout ce qui a pu être dit par rapport à tout cela maintenant. Les investissements sur Metz, c'est aussi notre capacité à revoir effectivement un certain nombre de choses, notamment attirer des investissements privés sur la manufacture des tabacs, sur Bon Secours, sur les ZAC, sur les maternités, faire du social. On a beaucoup parlé, par exemple, du taux de pauvreté. Je voudrais vous soumettre les taux de pauvreté de Marseille, 25%, Montpellier, 25%, Mulhouse, à côté de Bâle, 31%, Strasbourg, 24%, Nancy, 20%. Nous sommes dans la situation de toutes les grandes villes qui avons à gérer et à assumer cette pauvreté. Et moi, je suis fier d'avoir construit avec Isabelle Kosik un certain nombre, presque 50% de logements sociaux sur la ZAC de l'amphithéâtre. C'est cette politique aussi qui consiste. Alors on me demande évidemment de raccourcir,
et je ne voudrais
pas être traité de manière avantageuse par rapport à mes collègues. Je dirais que par rapport à ce que vous avez proposé, ce que nous avons proposé comme DOB et cette expérience qui est la nôtre, nous sommes sur une continuité. Et cette continuité, je pense qu'elle va encore porter ses fruits sur 10 ans. Merci.
Merci, Madame Kosik.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, l'année 2018 ouvre pour la ville de Metz et pour l'ensemble de l'agglomération une période nouvelle et prometteuse. Finalement, on en a peu parlé, sur le plan, bien sûr, de l'organisation de la gouvernance, mais surtout dans ce que la métropole va permettre de nouveau et de renouveau dans le développement économique et social. Cette évolution majeure doit nous conduire à penser et à agir métropolitain et non plus messo-messin. Mais cette nouvelle posture politique doit quand même s'appuyer sur nos engagements en matière de politique publique de proximité qui créent les services qui attirent et qui retiennent les familles et les jeunes, notamment dans la ville-centre. Il nous faut donc continuer à investir, comme vient de le dire Richard Liogé, pour poursuivre la modernisation de la ville et de nos équipements. Parce que ces projets répondent à des besoins directs en lien avec la vie des habitants. On les a cités, je pense à l'Agora, aux restaurants scolaires, aux équipements sportifs, mais également au centre des congrès, qui au sein de la ZAC de l'amphithéâtre marque là la volonté de la métropole de rayonner bien au-delà de notre territoire. Ces investissements sont possibles, monsieur le maire, parce que la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement permet de dégager une épargne brute et donc une capacité d'autofinancement. Le soutien que nous faisons aux investissements productifs, que ce soit du soutien financier, comme c'est le cas pour le Centre des Congrès, ou le soutien politique, comme c'est le cas pour Muse, où je rappelle que c'est de l'investissement privé, joue sur l'ambiance. C'est ce que vient de dire Richard Liogé, sur la confiance qui donne envie aux acteurs économiques et aux institutionnels de s'installer durablement. Confiance dans notre territoire, je pense que c'est notre responsabilité politique d'amener cette confiance-là. C'est donc finalement un juste équilibre entre le maintien de services de qualité à la population, qui sont une charge qui est répartie entre le contribuable et l'utilisateur. Et d'ailleurs, cette question pourra être posée au moment du dégrèvement de la taxe d'habitation. Et puis, trouver de nouvelles recettes, liées notamment, et on le souhaite tous, à une augmentation démographique. Mais ces nouvelles recettes, ça peut effectivement être aussi la vente d'une partie du patrimoine, parce que, je le rappelle, le cœur de métier d'une ville, ce n'est pas la gestion patrimoniale. Nous avons la conviction, monsieur le maire, que tout ce qui a été fait depuis 10 ans, sur le plan culturel, social, économique, urbanistique, des transports aussi, a largement contribué à construire notre maturité politique pour devenir aujourd'hui, enfin demain, une métropole d'avenir. Mais permettez-moi de terminer en m'étonnant des propos d'un conseiller municipal qui, sur l'échelle politique, je situerai plutôt comme un libéral de droite. Permettez-moi de m'étonner qu'il se réjouisse de l'éventualité du contrôle du préfet, un peu comme il y a plus de 30 ans avant les lois de la décentralisation, dans cette grande période du jacobinisme.
Merci. Maître Gandard.
Oui, merci Monsieur le maire. J'interviens donc au nom de Daniel Bory et de Gilbert Krosner et de moi-même, bien sûr. Et je voudrais simplement recadrer un tout petit peu ce débat sur un tout petit peu de politique. Aujourd'hui, ce n'est plus une problématique du faire, mais du bien faire. Cessons une certaine forme d'hypocrisie, d'autosatisfaction, alors que nous voudrions tellement faire plus. Quand tout vient à manquer, que sera la politique locale d'une ville comme Metz qui va devoir contractualiser avec l'État? Le rapport du DOB nous dit que, dans l'absolu, ce n'est pas très compliqué, il suffirait désormais de limiter la croissance des dépenses de fonctionnement à un niveau inférieur à un double plafond, la référence nationale du plus 1,2% et le taux de progression de nos recettes pour préserver notre épargne brute. Cette simple proposition est juste une injure au reste de notre autonomie financière qui déjà sous Hollande avait commencé à être sévèrement reniée et qui aujourd'hui s'achève par notre mise sous tutelle. Chemin faisant, aux prochaines élections, nous ne serons pas jugés sur notre bilan, mais sur celui qui nous est imposé. Comment oser évoquer la contractualisation de nos rapports avec l'État alors que nous sommes dans une relation de dominant à dominé? Voilà bien longtemps que l'on ne discute plus d'égal à égal pour fixer les règles du jeu. Cette façon de procéder est un retour, si nous l'avions abandonné, au clientélisme. Si tu es gentil, je te donne ton argent de poche. D'autant que ce rapport évoque peu la situation locale. Et pour ceux qui un temps ont participé à l'élaboration du SCOT, ils savent combien notre périmètre d'activité est restreint. L'effort demandé aux collectivités territoriales s'élève à 13 milliards d'euros, autant que pour la période de 2014 à 2017, juste pour réduire le déficit de l'État et pour nous priver de notre autonomie financière. La stratégie de l'État revient à faire peser l'essentiel de l'effort du désendettement sur les collectivités locales. C'est ce qui est écrit dans le rapport du DOB. Pour Metz, en 4 ans, la contribution au redressement des finances publiques, merci, les nôtres vont relativement bien, aura diminué de 8,646 millions d'euros, soit depuis 2007, juste 15 millions d'euros, c'est-à-dire un investissement supplémentaire comme l'Agora en fin de mandat. Depuis le début des contraintes fixées par l'État, nous avons perdu 130 emplois municipaux. Est-ce à dire que ceux qui sont partis et que nous n'avons pas remplacés ne servaient à rien? Comment va-t-on encore répondre aux besoins des Messins? En qualité, en quantité, un bref coup d'œil sur la pyramide des âges de nos personnels nous montre que tout va bien pour Macron, un personnel vieillissant qui va partir rapidement à la retraite et que nous n'allons bien sûr pas remplacer. Est-ce cela que nous voulons pour cette ville? Alors que nous voulons une solidarité accrue, traduite notamment par des politiques culturelles et d'éducation ambitieuses, un maintien d'un niveau élevé d'investissement, parions alors sur nos recettes de poche, comme on dit à Paris au ministère, et puis sur des hivers bien froids pour que l'UEM engrange de gros bénéfices.
Merci.
Stéphane Hessel nous produisait il y a quelque temps un petit livre intitulé « Indignez-vous ». Oserais-je vous proposer, monsieur le maire, ainsi que votre majorité municipale, d'aller un peu plus loin en vous proposant « Révoltez-vous ». Mais non, c'est juste triste à pleurer. Adaptons notre discours à nos valeurs pour en finir avec la dictamole ou la démocrature d'un État qui est incapable d'aller chercher l'argent là où il est pour le redistribuer. N'est-ce pas cela le rôle de l'État dans une République dont l'article 1 de la Constitution nous dit tout de même « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Merci.
Merci, monsieur Belhadad.
Merci, monsieur le maire.
Ça marche.
Mon intervention donc, va tomber à pic, alors. Monsieur le maire, mes chers collègues, je me réjouis, alors que certains nous annonçaient la pluie, les orages budgétaires, que nous trouvions aujourd'hui pour débattre des orientations budgétaires de la collectivité dans un contexte un peu plus serein. Le rapport, et je voudrais souligner la qualité du rapport, très pédagogique et qui explique bien les choses, nous échangeons aujourd'hui, ce soir, dans un contexte sécurisé sur le plan budgétaire et fiscal, contrairement à ce qui vient d'être dit à l'instant. Pour la première fois, depuis 4 ans, la dotation globale de fonctionnement sur le plan national sera en augmentation. C'est un gage de confiance de l'État à destination des collectivités qui se distingue de la traditionnelle méthode de rabot. Les subventions d'aide à l'investissement des collectivités connaissent un niveau exceptionnellement élevé, plus d'1,8 milliard, soit 77% de plus qu'il y a 3 ans, notamment parce que les réserves parlementaires et ministérielles, dont nous avons eu le courage de nous séparer au nom de la moralisation de la vie publique, viennent les abonder. La question de la compensation de la taxe d'habitation qui a tant agité certains pour son inégalité, et tout le monde s'accorde à dire qu'il fallait faire quelque chose sur ce plan-là, ne se pose pas en ces termes-là, puisque l'État procédera par voie de dégrèvement, c'est-à-dire se substituera purement et simplement aux contribuables bénéficiant d'un abattement partiel d'abord, puis total de cet impôt injuste. C'est un effort très important porté par les députés de la majorité dans un contexte très défavorable. Alors oui, dans ce contexte, il faut se questionner sur ce qui marche, sur ce qui est efficient et en favoriser le financement. Mais il faut aussi se pencher sur ce qui dysfonctionne, ce dont le coût n'est pas en proportion de l'effet produit et en tirer les conséquences. Aucun de ces choix, de nos choix, n'a été aveugle. Des heures de débat, d'échanges, d'auditions les ont motivés. Notre travail au quotidien sur le terrain permet de les expliquer, parfois d'en infléchir certains effets lorsque c'est injustifié. Le rapport souligne, par exemple, que la baisse des contrats aidés a ralenti la progression de l'emploi salarié au deuxième semestre de l'année. Oui, c'est au moment où la croissance repart, où les emplois se créent, qu'il faut avoir le courage d'infléchir une mesure socialement utile, mais économiquement inefficace et budgétivore. Je me suis personnellement investi aux côtés des services de l'État pour sauvegarder certains de ces emplois où, là où ils sont indispensables, la Banque alimentaire de la Moselle, les pupilles de l'enseignement public de la Moselle ou plus généralement toutes les associations situées dans les quartiers de la politique de la ville en savent quelque chose et me le font savoir. L'État sera également au rendez-vous des politiques partenariales aux côtés de la collectivité puisque nous nous sommes battus pour sanctuariser les crédits de la politique de la ville sur 5 ans pour doter de 25 millions d'euros les petites associations qui ne bénéficient pas de crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires pour recentrer le budget en faveur de l'égalité femmes-hommes sur le soutien aux associations de terrain, pour sauvegarder les crédits destinés aux pratiques sportives de proximité. Je me suis battu personnellement pour que le budget des sports, au lieu d'avoir une diminution de 7%, on est passé avec notamment la loi olympique, un budget des sports de plus de 8%. Mais nous ne contenterons pas, mesdames et messieurs, mes chers collègues, de l'existant. Les Français nous ont confié un mandat de transformation et nous attellerons avec détermination, par exemple, à expérimenter dès cette année les emplois francs pour lesquels je viens d'écrire à la ministre du Travail en vue de choisir notre agglomération comme pilote en engageant un vaste programme d'investissement en faveur de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de réformer la fiscalité locale d'ici à 2020. Et puis enfin, puisque des contrats de confiance vont être négociés au niveau local pour permettre aux collectivités d'anticiper sur leur niveau de dotation, je me réjouis que les prochains débats d'orientation budgétaire se fondent sur une vision de moyen terme et nous permettent en toute sécurité et en transparence de continuer de façon à construire la ville de demain. Donc les éléments financiers qui ont été présentés sur notre ville sont solides, même si cette situation reste fragile et nécessite de poursuivre les efforts d'économie et de la maîtrise de la masse salariale. Je terminerai simplement pour vous dire que je me réjouis en tant qu'élu national des efforts faits pour construire un projet de loi de finances sincère et injuste, et en tant qu'élu local qu'il permette à la ville de Metz de construire un projet de budget dans un cadre plus stable et plus ambitieux.
Merci, Monsieur Lecadir, dernier orateur inscrit.
Oui, Monsieur le maire, je m'excuse, je ne... Excusez-moi. Je ne vais pas parler ni de la révolution du grand soir, ni de du budget de l'État, mais je vais parler du budget de la ville de Metz et de la ville de Metz. Ce débat d'orientation budgétaire se pose dans un contexte à la fois complexe et difficile. Il est complexe parce que le passage à la métropole est loin d'être facile. On a le sentiment que ce passage se fait de façon automatique et simple. Il n'en est pas. En réalité, c'est un passage difficile et beaucoup de travail a été mené pour trouver le juste équilibre. Et puis, il est difficile, ce débat d'orientation budgétaire, parce qu'on est dans la troisième année de notre plan d'économie. Et je voudrais ici rappeler les chiffres. Contrairement à ce qui a été dit, nous avons fait en trois ans une maîtrise sérieuse de nos dépenses avec près de 13 millions d'économies sur trois ans, dont 5,2 sur le plan des ressources humaines. Ces chiffres sont incontestables et reflètent la réalité d'efforts importants faits par l'ensemble de la ville, de ses services et des politiques publiques que nous portons. Et quand j'entends qu'il faut parler et continuer à faire des économies, d'abord, ces économies sont faites, mais surtout, excusez-moi, j'ai plutôt entendu des dépenses en plus. Celui qui nous a proposé de faire des économies, dans la même phrase, nous dit qu'il faut faire un deuxième macaron moins cher. Un autre nous dit qu'il faut construire un parking. Un autre nous dit qu'il faut maîtriser la dépense de personnel, alors que c'est ce que nous venons de faire. Ces orientations budgétaires posent en réalité des priorités importantes. D'abord, la question de l'investissement, ça a été dit. Je cite l'exemple de l'Agora, que je connais bien. Et avec Margot-Antoine Fabry, nous sommes fiers, et avec toute la majorité, Monsieur le maire, de porter ce projet qualitatif, contrairement à ce qui a été dit par l'extrême droite, qui définitivement n'aime ni la culture, ni les quartiers de notre ville. Oui, nous sommes fiers de faire un jardin, de faire un grand écran, parce que c'est qualitatif et c'est ambitieux pour ce quartier. Ce budget pose aussi une priorité claire autour de l'éducation et de la culture. La culture, c'est ce qui fait l'âme d'une ville, c'est ce qui construit son identité, c'est ce qui construit notre vivre ensemble et qui nous fait partager des émotions communes. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Metz sur le plan culturel est un choix audacieux, je peux vous le dire, qui est regardé, qui est même envié par beaucoup de villes. Et moi, je suis fier par le choix qui est fait par le maire et par nous tous autour de la culture qui fait évoluer Metz très positivement. Enfin, un dernier mot sur l'évolution de cette ville, puisque ça a été évoqué sur les 10 ans. Cette ville, en 10 ans, a été transformée profondément. Une transformation urbaine comme jamais, ça a été rappelé par Richard Lioger. Des équipements majeurs nouveaux sont venus enrichir Metz avec la BAM, l'Agora, de nombreuses cantines scolaires, des écoles, le centre des congrès, le Métis. Enfin, je pourrais finir par cet élément, c'est le réveil de Metz. Moi, quand je suis arrivé en 2008, je rencontrais des gens qui me disaient « Metz, la belle endormie ». Personne aujourd'hui ne dit cela. Grâce à une politique ambitieuse en termes d'animation, de solidarité et de politique culturelle qui fait, je l'ai dit, qu'aujourd'hui Metz connaît un dynamisme comme jamais. Alors 2018 ouvre une nouvelle phase avec la création de la métropole. Ça a été très bien dit par Isabelle Cossic. Il nous faut dans cet exercice rechercher encore plus d'efficacité avec la métropole. Je citerai un exemple sur les charges de centralité que nous continuons de porter. C'est l'exemple du lien entre l'Orchestre national de Lorraine et l'Opéra, l'exemple de Constellation sur lequel la métropole doit encore plus s'engager. Continuer bien sûr à faire des efforts d'économie parce qu'ils sont indispensables, c'est incontestable, mais il faut le faire en gardant une ambition pour cette ville. et c'est ce que nous faisons. Il y a ici une très forte ambition sur le plan culturel, sur le plan de l'investissement, sur le plan urbain, et il faut garder ce cap-là.
Merci, Monsieur le Cadir. Écoutez, merci beaucoup pour ce débat. J'ai noté toutes les propositions de dépenses supplémentaires. On essaiera de donner satisfaction. Hein. Monsieur Thiel a parlé de l'élimination. On va essayer de voir si on peut trouver les moyens. Oui, j'ai tout noté. Et le parking, on va voir. On va essayer de vous donner satisfaction. Je n'ai pas d'exemple très, très précis de diminution de dépenses, mais je vais quand même réfléchir à tout réécouter pour voir s'il y a eu des propositions de diminution systématique de dépenses. J'ai noté aussi pas de coup de rabot, c'est bien noté. Donc, choisir des politiques et attirer les riches. Bah, j'ai vu une première page du Républicain Lorrain qui disait « Les riches sont de retour ». Alors, comme on me parlait du Républicain Lorrain depuis le début de la séance, je me permets de citer cette première page parce que elle m'a surpris. Et puis, comme ça répondait à la question de M. Thiel, je pense qu'on va le renvoyer à la lecture de notre quotidien préféré de la région. Voilà, je vous remercie. Tout est noté. Hein. Tout est archi noté. Je passe au point suivant, qui est le point sur la clette. Et c'est encore votre serviteur qui doit rapporter. On prend du... Ben, on n'a pas eu le débat.
Il faut voter le DOB. Il faut voter le DOB.
Non, il n'y a pas de vote.
Il y a un vote sur le DOB.
Il n'y a pas de vote.
Si.
Alors, est-ce que vous constatez qu'on a fait un débat?
Non, vote contre. Vote
alors, il n'y a pas eu de débat.
Il n'y a pas eu de débat. Regardez, Mme Collin-Osterly, il n'y a pas eu de débat.
D'accord.
Donc, je vote contre.
Une voix, il n'y a pas eu de débat.
Je vote contre.
Alors, écoutez, on prend acte du débat.
Si un vote, il y a obligatoirement le droit de donner une explication de vote. Rappel au règlement intérieur. Monsieur le maire, je regrette infiniment qu'il y ait eu deux poids, deux mesures dans ce débat et que vous ayez coupé un peu fortement la parole à Mme Collin-Osterly en laissant les membres de votre majorité dépasser largement.
Non.
Et de ce fait, du fait que de l'iniquité de ce débat, je voterai contre.
Alors vous faites contre le fait qu'on a eu un débat.
Ouais.
D'accord. Mais je vous signale que sur le plan de la durée de parole, l'opposition en a pris plus que la majorité et de beaucoup. Voilà. J'ai présenté, je suis rapporteur. Le rapporteur rapporte. Pardon ? Monsieur Thiel prend acte du débat. Bon, alors qu'est-ce qui prend acte du débat ? Il faut être sérieux quand même un peu là. Qu'est-ce qui ne prend pas acte du débat ? Alors il y a deux personnes qui ne prennent pas acte du débat. C'est Monsieur Thiel et Monsieur Cazin. Ben, ça ne m'étonne pas. Non, mais pardon. Monsieur Lebeau et Monsieur Cazin. Je pensais Lebeau et je disais Thiel. Pardon.